crois que tu es en train de reclasser tous mes disques. Tu les classes par ordre chronologique ?
Non.
Pas alphabétique en tout cas ?
Non plus.
Dans quel ordre ?
Autobiographie.
Auditrice, auditeur, Maxime Echène, votre reporter digger pour vous servir, vous écoutez « J'irai diguer chez vous », l'émission où je chine les vinyles et les souvenirs chez les particuliers et partout là où on les expose, les commente et les écoule. La destination de mon digging du jour est la « Secret Place ». Les disques y bénéficient d'un beau rayon où ils retracent l'histoire des murs. Une histoire au départ de punk montpelliérain qui se sont ouverts à tous les autres rock que cette salle de concert, située dans une zone industrielle de Saint-Jean-de-Védas, accueille et promeut depuis 1999. Une salle hyperactive, dénichant des groupes aux quatre coins du globe, attirant des niches de fanatiques prêtes à faire de la route pour y venir, et gérée de mains de passionnés par l'association Tout à Fond, dite la TAF. Une entité qui se déclina aussi en fanzine, le Taffeur, et qui existe également en tant que label BeFast. Pour en parler, je suis allé à leur comptoir interroger son président François-Xavier Pinchon, alias Fifi. Une entrevue éclairante quant à sa mélomanie, à la genèse, à l'activisme, au fonctionnement ainsi qu'aux difficultés financières de ce lieu essentiel du paysage culturel du Sud, programmant plus de 150 concerts par an. En fin d'interview, Fifi se fend d'un coup de gueule à l'égard de certains élus et de leurs promesses non tenues, et j'espère qu'ils entendront son message. L'émission a été réalisée par mes soins et vous pouvez trouver quelques clichés sur notre Instagram signé de Christophe Lelorin, un émérite habitué du devant de la scène. Bonne écoute.
Bonjour Fifi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté que je vienne à la Secret Place pour t'interviewer.
Ben, c'est avec grand plaisir.
Alors tu es un activiste du rock à Montpellier, même j'ai envie de dire dans le sud, tout le sud. Et forcément derrière l'activiste, ben, y a le passionné, le mélomane. Donc première question, toi, quels étaient tes premiers émois musicaux, enfants, adolescents ?
Enfant. Enfant, c'était OTH en fait. Voilà, qu'on en parlait en off, une rencontre le dimanche quand il répétait en fait. Voilà, parce que mon père allait dans une remise faire des travaux sur des vieilles bagnoles et les voisins c'était OTH en fait.
À Saint-Jean-de-Védas ?
À Saint-Jean-de-Védas toujours, à 1 kilomètre d'ici.
Donc finalement, t'as jamais bougé.
Non, j'ai bougé comme ouais, voilà. Et comme le disent certains groupes, je mourrai ici, je crois. On est tous partis, on reviendra tous ici, quoi.
Et donc OTH, les membres étaient plus âgés que toi.
Ah oui, oui, heureusement. Moi, j'avais 5-6 ans quand eux ils jouaient déjà. Oui, il y a des photos dossiers que j'avais donné à l'époque du DVD où je joue avec un camion poubelle et Motch me regarde comme ça d'un air bienveillant ou endormi, je sais pas.
J'ai ramené la platine portative à la Secret Place et du coup on a positionné un 45 des OTH. C'est le premier 45 tours que tu as eu d'eux ?
Le premier 45 tours. C'est le premier 45 tours que j'ai acheté à l'époque à Alala Disque.
Alors pour ceux qui connaissent pas, quel était c'était un disquaire ?
C'était un disquaire rue du Pila Saint-Gély, tenu par Alain Voyer, qui était le manager d'OTH, Alain Picon, chanteur des Vierges, et Gilles Picon, bassiste des Vierges.
Je t'ai enfant, tendre et vicieux.
En fait, si j'ai aussi choisi OTH, c'est parce qu'on en parlait en off avant l'interview. C'est que dans Musique Atteinte, il dit le choc se fit avec le rock. Moi, je viens d'un milieu, mon grand-père était militaire, pied noir. Donc voilà, c'était une réaction où politiquement, c'était l'opposé de ce que j'avais connu et grandi.
Et c'est le cas des OTH aussi.
Vu leurs paroles, je pense aussi, oui. Ils venaient aussi de citer la Sorbès, la Srébès et tout ça. Donc, c'était une réaction, je pense, eux encore plus, ils sont plus vieux, c'est d'une génération gaulienne, quoi. Donc, c'était avant les radios libres, quoi.
Du coup, enfant, tu découvres ça? Et à l'adolescence, tu continues à écouter ça? Tu peut-être te mets à la gratte?
Non, pas du tout. En fait, la chance que j'ai eue, c'était donc cette rencontre par la passion de mon père et de Roger, qui ont refait d'ailleurs le Citroën bleu d'OTH hein, à l'époque. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est que mon père avait un magasin à 500 mètres du fameux Alala Disque, en fait. Donc, je vivais à côté de tout ce qui nourrissait le rock à Montpellier, en fait. Alala, c'était tenu par Gilles et Alain des Vierges. Donc, j'y passais mes mercredis, mes samedis après-midi. Voilà. Donc, c'était à côté tout le temps.
Ça s'est fait naturellement.
Voilà, ça s'est fait naturellement. Voilà, et comme on en parlait tout à l'heure, Montpellier était tout petit et au centre-ville, tout le monde répétait. Il y avait des caves partout. Et il y avait un bar où tout le monde allait. C'était le bar des Capucins, place derrière la place de la préfecture. Et nous, quand on était ados, on allait là-bas et tu rencontrais tous les groupes de rock de Montpellier, quoi. Donc. Et Montpellier, par rapport à maintenant, c'était ce qu'on appelle l'écusson, quoi. Ça allait pas plus loin que ça, quoi. Donc c'était minuscule.
Et étant donné que tu n'étais pas musicien,
alors,
ou tu as essayé de l'être, peut-être, quand même.
Alors, malheureusement, comme pas mal de gens, hein, j'étais au conservatoire à Montpellier. Un bel échec, parce que ma prof, c'était ma tante, Madame Cour. Elle a essayé de m'apprendre le solfège pendant des années, pendant 5 ans. Si, comme tout le monde, j'ai joué dans des groupes pourris, underground dans des caves, hein, voilà. Et voilà, et puis du coup, j'ai pris une direction professionnelle qui était l'hôtellerie. Et en 91, comme beaucoup de Montpelliérains, quand le 13 décembre 91 a pris toujours à revenir à OTH, en fait, leur date de séparation, moi, je suis monté à Paris comme plein de gens pour bosser. Et au bout de 5-6 ans, je suis redescendu à Montpellier et on a créé la TAF, en fait. Parce qu'on a connu Montpellier Rock. Et quand on est revenu, disons, quand je suis revenu, le Rockstar, la Cadillac était mauve, le Rockstar avait un hit, hein, et c'était le début des fêtes techno. Et à l'époque, il y avait plein de bars quand on était gamin qui faisaient des concerts. Et là, à cette époque-là, les concerts s'étaient terminés, en fait. Il n'y en avait plus, quoi. D'où, on s'est dit, on prend un local de répète, hein, et pour payer le local de répète, on s'est dit, on va faire un concert par mois, puis deux, puis trois, puis on s'est fait virer, puis on a atterri ici, et puis voilà, quoi. Tout s'est enchaîné sans calculer, en fait.
Et les premiers concerts, ça a été quoi?
Le premier concert, c'était le 16 février 1996, à Vendarien, dans la première salle à la TAF. Il y avait les Mollards, les Mouskas Blasters, et Microbial Control. C'était que des gens de l'assaut, en fait. Voilà, et des locaux de répète, du local de répète, parce qu'on était une salle qui servait de local de répète. We'll be right back.
quand tu dis on a créé la TAF, c'était qui avec toi?
On était exactement au début, on était 13 ans. Voilà, en fait, c'était plus des réunions d'apéro au Capucin. Puisque quand on a déménagé notre bureau pour venir ici, on a retrouvé des compteurs rendus d'Assemblée Générale. Ça me semblait surréaliste, hein, où c'était bon. Maintenant, on essaye de plus se bourrer la gueule avant les réunions et de plus fumer de joint, putain. Tu vois, les objectifs des réunions. Mais bon, le problème, c'est que notre siège social était au bar des Capucins ou à un rue Rossé. Déjà, quand ton association, les réunions se passent à 18h le vendredi, c'est mal barré, quoi. Tu vois, tous les gars montaient pas une assoce dans un bar, quoi.
Tu veux dire par là que parmi les 13 membres fondateurs, du coup, il en reste plus beaucoup, quoi, non?
Non, ouais, non, ben oui, oui, au bout de 28 ans, Luc est encore sur Montpellier. Jean-Jacques, lui, est sur, comment il s'appelle, Marseille. Il travaille au CNRS. Et Jérôme travaille, alors, pas exactement ce qu'il fait. Il travaille avec la Chine, il fait de
import-export.
Voilà, on va dire ça. Après, on est dans le rock, hein, donc il y a quand même eu déjà, malheureusement, 3 personnes qui sont décédées. Donc voilà. Et 2 autres qu'on a complètement perdu de vue, en fait. Voilà.
Tu es aussi ça, le punk?
Ouais. Oui. Si tu as par là décédé, oui, c'est sûr.
et du coup, vous étiez dans la philosophie do it yourself?
Bah, au début, on était surtout dans la philosophie d'un local de répète et se bourrer la gueule. Hein. Malheureusement, c'est ça. Hein. En fait, on est revenu, il n'y a plus vraiment de concerts. À l'époque, en local de répète, il y avait Victoire et Prozic, tu vois, à Castelnau. Donc voilà, du coup, on s'est dit, on va faire, comme je te disais, un local de répète. Après, il fallait payer. Donc voilà, ça s'est enchaîné, l'histoire.
Il y a 2 autres 45 de groupes majeurs de Montpellier, hein, que tu as évoqué là.
Eux, c'était mon enfance.
OTH.
Voilà. Et,
y en a
et après, ces deux groupes-là, ben, comment t'expliquer ils font partie intégrante de ma d'où je viens. Et fondateurs aussi dans ma vie, en fait. Oui. C'est-à-dire que... il y a des liens particuliers avec ces deux groupes. Le bassiste, Michel, c'est avec lui que j'ai fait tout ce qui est la maçonnerie et la construction de la salle.
Donc le groupe, c'est Les Shérifs.
Les Shérifs, voilà. Quand on a pris ici, c'était à la sortie d'Electrochoc, en fait, le dernier album des Shérifs. J'en avais parlé à Michel, j'ai dit, voilà, je vais prendre un hangar pourri à Saint-Jean-de-Védas, machin, est-ce que tu veux en être? Il m'a dit, non, j'ai Les Shérifs. Il m'a appelé, il m'a dit t'as ton local, oui, il m'a dit bon ben voilà, hier j'ai arrêté, en fait il venait d'arrêter Les Shérifs, il m'a appelé dans les 48 heures et en fait pour lui le rock s'est jamais arrêté, en fait, parce que il a arrêté Les Shérifs et 48 heures après on attaquait les travaux ici, quoi. Et lui il est vraiment maçon de métier et on a passé en fait on avait une une alternance, c'est-à-dire une semaine, on bossait le soir de 17h à minuit en travaux. Et la semaine d'après, on faisait le week-end ici. On arrivait à 7h du mat et on partait, voilà. Parce qu'il n'y avait pas l'étage, hein, il n'y avait pas les sas d'issue de secours, il n'y avait pas les WC. Il y avait une toilette dans la salle, en fait, et un robinet.
C'était quoi avant?
Un dépôt de jouets, en fait. Un hangar, il y avait une porte métallique, hein, il y avait pas les sas, pas les WC, pas l'étage. L'extérieur, il y avait un poulailler et un garage, hein, tu vois, et un dénivelé de 10 mètres. Donc, oui, on a mis, quand tu parlais du do it yourself, là, on a pris ça, on a ouvert officiellement en 2008, tu vois. Donc, il nous a fallu quand même 9 ans de galère. De galère, mais avec le recul, des fois, je regrette cette époque-là, même si c'était dur, hein. Physiquement, c'était dur, puisqu'on travaillait tous à côté. Gilles te le dira, hein, celui des Vierges qui est là, on en parlera après, où on s'est fait les fondations des chiottes à la barre à mine, tu vois. C'était un peu le rock du bagne, quoi, tu vois, comme a dit Elvis, quoi. Mais voilà, après, c'est des sacrés souvenirs, tu vois. On va dire, et après, quelque part, quand t'es de Montpellier, moi, mes idoles, quand j'étais gamin, c'était les Vierges et les Shérifs. Tu te dis, bon, les mecs, ils sont avec toi, ils font du tractopelle, tu vois, il y a des trucs... Voilà, c'est pour ça que je te dis, musicalement, ça a été fondateur, et après, humainement, voilà, ils font partie de ma vie, et c'est des membres de ma famille, ces gens-là. Voilà, et après, il y a un autre disque, du coup, aussi, pour dire d'où on vient, tu vois, que j'ai amené. Voilà, c'est Jerry Lee Lewis, en fait. Parce que, bon, même si on vient du punk, moi, je suis fan de rock'n'roll, quoi. Ville, et fan de Johnny Cash, et Secret Place, en fait. Quand on a mis Secret Place, c'est parce qu'avant, il y avait un numéro de téléphone, on fonctionnait comme les Tough Techno, et on mettait juste un infoline, en fait. Et d'où ce disque de country avec sa sœur, c'est parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Secret Place, en fait. Et il y a une seule personne qui en a parlé de ce morceau, qui le connaissait, c'était Ty Luke de la Souris Déglinguée, ouais, qui était fan de rock'n'roll aussi, quoi.
Et dont le disque, là, Tu me montres de la souris, c'est un live à...
enregistré ici. Ouais, voilà, c'est ça. Et il en parle dans le disque... On l'a enregistré ici, on l'a, voilà, et là il en parle, qu'il a joué dans une salle qui s'appelle Secret Place, venue de Jerry Lee, en fait. Voilà, parce qu'on vient du punk, mais les punks savent pas que c'est Jerry Lee Lewis, tu vois. Peut-être que pour moi c'est le premier punk, tu vois, Jerry Lee.
« We've loved each other all these years. We've lived with constant shame and fear. But we'll go on and live our love tonight in secret places. Secret places, hidden faces. That's all. Secret places, hidden faces. That's all we've ever known. Stolen moments, warm embraces. We know we just can't be wrong.
Why do we have to hide our love when we belong together? Our love is like a ship at sea. That's tossed by stormy weather.
But hopefully the time will be when you'll belong to only me. Then we won't have to slip around and meet in secret places.
Vous venez du punk, mais en même temps, la volonté de ce lieu, c'est quand même d'être une vitrine de tous les rocks.
Disons, c'est avec le temps. On avait beaucoup de, comment dire, dès le début, en fait, ceux qui ont fréquenté le plus les locaux de répète, même si on venait du punk, tu vois, c'était les métalleux. On n'a pas trop compris dès 99-2000. Les premiers mecs qui sont venus, alors que c'était dégueulasse, les premières répètes se passaient là. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas d'étage et tout. C'est des groupes qui existent encore, c'est des groupes de black metal comme Hegemon, tu vois. Ou Goals, c'est assez rigolo, tu vois, parce qu'ils viennent pas du tout de notre univers. Et au fur et à mesure, nous, on faisait les travaux le dimanche et on hallucinait. Parce qu'on ouvrait les locaux de répète à 11h du matin. Et de 11h du matin à minuit, t'avais que des groupes de métal, tu vois. On se disait, mais putain, ça... Donc, en fait, on s'est mis au métal dans... Parce qu'on a côtoyé ces gars-là, en fait. Tu vois, nous, on s'est dit, on galère, on n'a pas les concerts qu'on veut voir. Mais en discutant avec eux, c'était pareil à l'époque, en fait. Tu vois, la scène black metal, en 99-2000, ça n'existait pas vraiment. C'était pas la mode du Hellfest, tu vois. Donc, ouais. C'est pour ça qu'on l'a écrit sur la porte. Home of Underground Rock, en fait. C'est-à-dire... tout ce qui est entre guillemets pas le droit de citer ou pas assez à mon sens. Tu vois, il a fallu attendre 25 ans pour que Gojira fasse sa première télé, quoi, en France. Donc bon, voilà, si Gojira galère à faire une télé, imagine le reste, quoi.
Là, il y avait nulle part ailleurs peut-être qui a diffusé quelques groupes punk, et encore.
Pour passer, c'était Monsieur Saunier, Stéphane Saunier qui faisait la programmation. Et tu pouvais passer chez lui si tu chantais en anglais, que tu faisais du garage. Tu regarderas des groupes de punk français, il n'y en avait pas. Il n'aimait pas, mais voilà, il n'aimait pas ça. Donc oui, il y a eu, nous, c'était génial, hein, quand il y avait nulle part ailleurs, parce que la première fois, on a fait Nashville Pussy, il y avait personne. La deuxième fois, ils venaient de passer à la télé, on a fait du monde. Pareil pour les Lord of Altamont ou machin. C'est-à-dire, toute la scène garage, il y avait pas, il passait, le métal, il passait. Mais pas en tout cas, tout ce qui était la scène punk française n'y passait pas. Les Burning, ils passaient parce qu'ils chantaient en anglais, tu vois. Mais après, voilà, le programmateur n'aimant pas ça, c'est pas un reproche, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'était, Nous, tous les concerts de garage qu'on a fait, grâce à Nulle Part Ailleurs, on a fait du monde, quoi. Les belles raises y sont passées, tu les fais 15 jours après, tu fais du monde, quoi.
Your mama's in jail now, left you all alone. I said your mama's in jail, left you all alone. Well, I got some sugar for you, baby, if you wanna borrow some. I said, don't be shy with me, baby. Knock on my front door. Wouldn't be nameless if I wouldn't answer my front door. I'm home alone on Sunday. Preacher man, and I know that I've been softer on your soul. On your soul. She's gone up the river. It'll be 5 years or more. Yeah, yeah. Dad says she's gone. She's gone up the river now. It'll be 5 years or more.
Comment ça se passe pour faire venir tous ces groupes-là? Parce que vous faites quand même énormément de concerts, quoi. Plus d'une centaine, je crois, par an.
Ouais, entre 120 et 150.
En fait, il faut être tout le temps connecté, bien que même au début, il n'y avait pas forcément Internet. Enfin, il faut avoir un réseau.
À l'époque, c'était plus ce qu'on écoutait, ce qu'on était fan, machin. Ce qui sortait chez les disquaires, les VPC, tu vois. Maintenant, avec les mails, ça va plus vite, en fait. Voilà, donc tu sais plus ce qui se passe à New York exactement. Après, comme tu, je sais pas, t'as dû voir sur la programmation, on a beaucoup de groupes new-yorkais qui viennent, mais de tout style en fait, que ça soit du punk, du garage, du rock and roll, du hardcore en fait. Voilà. Une fois que tu t'es fait réseau, les mecs ils t'envoient directement un mail, quoi.
Et du coup, la Secret Place fait partie incontournable de leur tournée européenne.
Ah oui, en tout cas, ce qui est sur le New York hardcore, ça c'est sûr, hein, voilà, en métal, paradoxalement, le groupe qu'on a fait jouer le plus, on a fait leur 40 ans à la salle Victoire de cette année, c'est Napalm Death, tu vois. C'est le groupe, 17 fois, on les a fait jouer. Donc, en 25 ans, en 28 ans.
Ils ont joué aussi à la Secret Place ou?
Si, 11 fois.
11 fois.
Ouais. On les a fait jouer au Théâtre de la Mer pour le Holiday in the Sun avec Sepultura. Je les ai fait jouer 2 ou 3 fois au Rockstore. Donc, quand ils ont dit « on fête nos 40 ans », j'ai envoyé un mail. J'ai dit « les gars, si on fait pas les 40 ans avec vous, vous venez plus jamais chez moi, quoi. » En gros, c'était une évidence, en fait, qu'on allait les faire.
We'll be right back.
C'est devenu des proches, presque, ou...
Eux, c'est plus un respect. Ils nous aiment bien. C'est eux qui nous font de la pub, en disant au groupe de grind et tout ça, allez jouer là-bas. C'est eux, paradoxalement, c'est Napalm qui a dit au groupe français les Blockheads il y a quelques années, qui leur demandait où jouer. Ils ont dit, mais nous, en France, on va toujours à la Secret Place. Donc, c'est assez marrant que ça soit Napalm, un groupe anglais, qui dise à un groupe français, mais nous, on va, voilà. Et oui, après, il y a des groupes comme Tel Barrio, un groupe brésilien de hardcore, ou c'est Agnostic Front qui leur dit, ah, tu vas en France, ah, voilà. Ouais, après, les vieux groupes, nous envoient du monde, nous parlent de nous, partent de... évidemment, au bout de 25 ans, quand il y a un DVD qui sort et un reportage sur le New York Hardcore, où il y a les images de la Secret Place sur Agnostic Front, bien sûr, moi, je suis flatté et content, en fait. Eux, c'est devenu un des groupes liés de la salle où on se connaît, où on se parle par mail. Voilà. Donc,
d'ailleurs, tu as sorti un disque de...
Ouais. Parce que, ouais, ça, c'est une rencontre humaine, on va dire, Agnostic Front, hormis la musique. Hein, maintenant, voilà, c'est devenu. Ils portent nos t-shirts, ils parlent de nous, on est dans tous les reportages d'Agnostic Front maintenant systématiquement, dès qu'ils sortent un DVD ou qu'il y a un clip, on est dedans. Donc, voilà, on se fait pas des bisous ou des gros câlins quand on se voit, mais voilà, il y a une fidélité, une amitié.
Un respect.
Un respect, voilà, c'est ça.
Autre groupe montpelliérain dont tu voulais parler davantage et qui t'a marqué, bon, tu l'as déjà évoqué un petit peu, mais tu peux nous en dire plus, Les Vierges.
Ouais, voilà, ben, en fait, Les Vierges, ça a été la rencontre, donc on en parlait tout à l'heure chez Alain à la Disque, avec Alain, puis après avec Gilles. Leur concert où c'était généralement le chaos, en fait. T'allais voir un concert des Vierges, tu savais quand ça a commencé, tu savais pas vraiment comment ça allait finir. Tu sais, parce que... comment t'expliquer ? À une époque, hein, un bon concert, c'est quand il y avait, comment on va dire, du chahut. Tu vois, pour pas dire autre chose. Et voilà, on était tous un peu pleins de testostérone. Moi, peut-être beaucoup, un peu aussi. Donc j'aimais ça, quoi, tu vois.
J'oublie. Ouais.
Ce qui m'a valu quelques déboires et quelques souvenirs à droite à gauche. Mais voilà, donc ça, musicalement, c'est ce qui m'a amené sur c'est eux qui m'ont amené sur les Météores, parce que c'est les Vierges qui ont amené les Météores à Montpellier, en fait. Et c'est eux qui ont amené ce truc là. Donc il y avait toute une bande de gens et de jeunes qui traînaient autour d'Alala. Et qui sont toujours ici. Par exemple, il y a Stéphane qui fait DJ ici souvent avec Nelly, les disquaires, qui lui, on a le même âge, jouait dans les Jungle Kids, un groupe de psycho de l'époque. Dans les Jungle Kids, il y avait un batteur, il s'appelait Fred. Pareil, on a le même âge. Si je me suis aussi retrouvé dans le milieu du métal, c'est toujours pareil, c'est qu'à 20 ans après, il s'est mis à faire chanteur dans ILS, un groupe de métal, donc... Allez, hop, je m'enquille dans le métal alors que j'y connais rien, tu vois, voilà. Donc ouais, pour moi, humainement, ouais, musicalement, j'étais fan du groupe. De deux, ça m'a fait découvrir les Météores. Donc, les gens vont dire que j'étais un psycho, oui et non. Parce que moi, dans le psycho, j'aime pas grand-chose à part les Météores, en fait. Voilà. Je dirais même que tout le reste, j'aime pas, à part Révérend Ortonite, tu vois. Et le problème, et le premier album des Quakes. Donc, tu vois, voilà. Pourtant, du Psycho, j'en fais tout le temps, hein, mais voilà, moi, mes groupes, c'est ça. Et après, humainement, pareil, hein, Gilles, qui organisait quand même à l'époque avec Alala beaucoup de concerts à Mimi la Sardine. Par exemple, moi, j'ai découvert là-bas les comment il s'appelle, le premier groupe de Blaine, le guitariste qui joue maintenant dans Agile Pussy, c'était Nine Pound Hammer, des trucs comme ça, des groupes que lui a organisé à l'époque que moi après j'ai refait jouer, tu vois. Donc où ils organisaient à l'époque les Meteors, après c'est moi qui les fais, voilà. Et puis Gilles fait partie de la TAF depuis 98 quand même, a fait les travaux. Ceux qui viennent souvent ici, ben, il fait portier à la TAF depuis 1998. Donc voilà, en vrai, c'est pareil d'être fan et gamin de Montpellier. Ils sont venus, que ce soit Michel ou lui, c'est les piliers en fait. Certains diront les lieutenants de la TAF et de la Secret Place. Et à une époque de garde-fou quand je faisais des conneries. Il y a un truc que je tiens à dire dans une interview. En ce moment, j'en ai plein le cul. Parce qu'il faut pas oublier, quand on parlait tout à l'heure, on parlait de la souris ou de tous ces groupes-là. Il n'y a aucun de ces mecs-là ou aucun groupe de rock, de punk rock. Hein. On va pas parler de téléphone ou autre, hein, ou j'en sais rien, de variété. Tout le monde a des casseroles, tout le monde a fait des conneries. C'est pas une musique lisse. Si on était lisse ou normal, on ferait pas la Secret Place à 50 ans ou comme des gars comme Gilles maintenant à la retraite. C'est que pour le commun des mortels, on a tous plus ou moins un pet au casque, tu vois, quoi qu'on en dise. Et c'est pas des groupes lisses. Donc voilà, on parlait de l'ouverture d'esprit, c'est la différence que je vois avec le métal en fait. Où ça se consciencialise, le seul truc qu'ils veulent, c'est y arriver, gagner du blé. Une société instagrammable. Il y a eu le punk qui est né pour détruire le hard rock, parce que je suis désolé, c'était ça. Bon, ben les nouveaux hard rockers, c'est les métalleux, quoi. Napalm, pour moi, c'est du métal Motorhead, ok, mais alors, tu vois, aller dans les loges, se prendre en photo, faire le cake et mettre 45 sponsors, putain, ça me débecte.
Parlons un peu du label, c'est Bifast.
Voilà, en sommeil, on dira, depuis le Covid.
Mais ça a été quand même une volonté, quoi, en plus de la salle, d'avoir cette maison de disques, enfin de diffuser.
Alors déjà, le premier truc, on s'appelle Bifast parce qu'on a fait une compile en 98. Où il y a un groupe new-yorkais qui s'appelle Turbo Isis dessus. Et eux, ils ont traduit tout à fond par Bifast. Donc, ils nous ont envoyé le morceau. Putain, j'ai dit mortel. Et quand on s'est dit, tiens, on va sortir des disques, qu'on s'est dit, comment peut s'appeler le label de la, tout à fond de la TAF, quoi. Ben, voilà, Bifast, en fait. Donc, on parlait de New York, d'où, voilà... Turbo Aces, en fait, c'est à exactement le même âge que nous, c'est-à-dire ils sont créés en 96, et c'est pour ça, moi j'ai fait 6 disques avec eux, je les ai fait tourner pendant presque 15 ans, et c'est pour ça que voilà, on les fera toujours jouer ici en fait, parce que on a même fait des échanges de logos avec eux, le gros logo tout à fond là, comme ça, eux ils l'ont pris, ils ont écrit Turbo Aces. Et le logo clé à molette écrit TAF, en fait, c'est le logo de Turbo Aces qu'ils nous ont filé, en fait. Donc voilà, quand on parlait sur les connexions de New York, et il y a eu un 45 tours qu'on a sorti, qu'on a encore là, en 2005, qui lui a été produit à New York par Roger Miré, le chanteur d'Agnostic Front. Tu vois, le monde est quand même Saint-Jean-de-Védas, New York, quoi.
Las Vegas.
Las Vegas, voilà. Mmh. Comme le food truck, c'est exactement ça. Ouais, le label, on a quand même fait, on a un peu plus de 50 références. Le dernier en date, c'est un groupe de jeunes qui s'appelle les Tasmen, un trio psycho, tu vois. Dédicace à Schnouf, quoi. Et ben là, écoute, ça a été compliqué pour le label, mais du coup, on va essayer de... Là, c'est sûr, on va refaire le prochain album des Tasmen. Et se bouger le cul pour faire avancer les Palavas, et ça, c'est ma faute.
Palavas Surfers, c'est ça?
Exactement.
Où il y a des anciens, des vierges?
Des vierges. Le monsieur que tu as vu qui fait les travaux. Il y a Panda, Frédéric au clavier aussi, qui est bénévole ici depuis très longtemps. Il y a le bassiste Franck qui est bénévole ici aussi. Bref, voilà quoi. Manu à la batterie, qui jouait dans Evil Country Jack, un groupe de métal avec qui on a fait. Deux disques, je crois. Ouais. Qui a été bénévole pendant 15 ans, voilà. Pareil, les Palavas Surfers, on va dire, et la suite des Vierges, pour moi, humainement. Et dans ce groupe, là, voilà, ils sont tous là, présents. Donc, Palavas Surfers et la Secret Place et la TAF, c'est indissociable, en fait.
Tu disais que le Bifast, c'est en sommeil. Mais par contre, malheureusement, j'ai cru comprendre que par contre, le taffeur, le fanzine, ça, c'est définitivement...
Ça a été... on en parlait aussi tout à l'heure. En fait, avant, on avait un fanzine photocopié qui s'appelait le taffeur enragé, qui sortait comme un fanzine trois fois dans l'année ou quatre fois. Et à l'époque, moi, je filais un coup de main à un magazine, je faisais des chroniques, ça s'appelait le Cocazine. Avant, c'était le Mirador de la Sardine, après, c'est devenu le Cocazine. On a fait le festival à 100%, les soirées tout à fond, au Rockstore, après à Gramont. Et Alex Garbaille, ouais, qui était le rédacteur en chef de ce truc-là, a arrêté. Bon, voilà, moi, j'étais sur le fanzine, toujours, et il m'appelle, il me dit, bon, le taffeur, là, t'en as pas plein le cul, je fais quoi, de faire un truc photocopié, Il m'a dit, j'ai quitté le Cocazine, j'ai dit, ouais, je sais, j'étais là, il m'a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, je le reprends, on fait un taffeur. Tous les deux mois, on s'est vu, hop, ça a pris plein de jours, c'est parti, et là, c'était pas économique. Moi, c'était au bout d'un moment, tout simplement, c'est que c'était quand même un boulot parce qu'on le tirait à 40 000 exemplaires. Il sortait tous les deux mois. Et je sais pas, les deux dernières années, pour moi, c'était dur dans le sens où il y avait un infographiste à payer, l'imprimeur à payer, une grosse distribution puisqu'on distribuait sur le Grand Sud. Le magazine était bénéficiaire, hein. Je veux dire, on vendait les pubs, mais en fait, j'étais plus devenu un vendeur de pubs que faire des articles ou des chroniques, machin. On a essayé de salarier un commercial, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est plus moi, en fait, par lassitude de chercher des pubs. Et quelque part, je me dis, c'est pas plus mal. On s'est arrêté, je pense, au bon moment où le magazine marchait bien. On n'a pas de dettes, avant le Covid. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et la presse papier, y a quand même un écosystème qui disparaît. Les labels, ils vendent de moins, donc ils prennent plus de pubs. À l'époque, il y avait énormément de boîtes de production de concerts à Montpellier. Il n'y en a pratiquement plus. Les salles de concert à Montpellier, il y a quoi, Victoire 2, le Rockstore. Maintenant, mais le Rockstore, c'est énormément de boîtes extérieures qui produisent.
Le Jam.
Ouais.
Dans un autre.
Ouais, mais bon, regarde le Jam quand il y avait le taffeur et le Jam maintenant, c'est pas la même programmation et la même activité. Donc, je pense qu'il y a tout un écosystème de la musique qui est en train de disparaître. Les labels disparaissent, des nouveaux groupes, du coup, c'est de plus en plus dur, même si c'est plus en plus facile à sortir des trucs, mais à percer, c'est de plus en plus dur, en fait. C'est-à-dire, quand tu vois que les groupes de métal payent pour faire des tournées ou des premières parties, bon, c'est un autre monde, tu vois, il y a une autre économie qui se met en place, et ça marche, tant mieux pour eux. Et voilà. Et je pense qu'on a arrêté au bon moment. Ça, j'ai pas vraiment de regret, c'est moi qui l'ai arrêté. Les deux dernières années, ça marchait super bien, mais c'est moi qui en avais marre, hein, de chercher des pubs. Je suis pas un commercial, ça me prenait la tête. Voilà.
Là, tu as un 45 entre les mains.
Ouais.
C'est Motorhead dont tu as parlé un petit peu.
Ouais.
Pourquoi tu y as pris celui-là?
Bah, déjà, pour plusieurs choses, musicalement, pour moi, c'est un crossover, hein. Ça va être ce qui a lié, quand t'allais à un concert de Motorhead, hein, t'avais des métalleux, avant on disait des hardos, des punks et des rockers. C'était quand même le groupe qui a un peu unifié tout le monde et qui unifie toujours tout le monde. Et quand on parlait de label indépendant, il faut pas oublier que le premier 45 tours de Motorhead est sorti en 77, en plein air punk, mais sur un label français, qui s'appelait Skydog, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est quand on parlait d'indépendance, hein, tout le monde pense que les premiers labels indés sont en anglais, que ça soit Spliff et tout ça, mais non, c'est en français. Et notamment avoir sorti Motorhead en 77.
Tu connais le fondateur de ce label? Tu l'as déjà rencontré?
Oui, rencontré, on a fait des choses ensemble. On a fait Guitar Wolf au Rockstorm, puisqu'à entre guillemets, à la fin de sa carrière, il allait chercher des groupes au Japon. Et il s'appelle Marc Zermati. Et le monsieur à Montpellier qu'il faudrait que tu rencontres et qui a la plus grosse collection de Skydog en France, c'est Jean-Claude Savy de Julie Productions, en fait. Il habite pas loin d'ici aussi et qui a une collection de vinyles pharaoniques, qui s'occupait du fan club des Kings, tu vois, qui organisait des concerts en 77 de Police, et qui, voilà. Je crois, de source sûre, qu'il a tous les disques du label Skydog, sauf un.
C'est toi qui l'as.
Non, c'est le fameux Metallic Chaos des Stooges en version argentée.
Précieux. Hein.
Voilà, je crois qu'il lui manque un exemplaire surtout. Parce que ce 45 tours, il est sorti à 500 exemplaires, mais Jean-Claude, là aussi, en version violette, sorti sous licence Skydog en Suède à 300 exemplaires. Parce que Jean-Claude va te dire combien il y a eu de copies, par quel nom de gars. C'est un personnage à rencontrer, Jean-Claude, avec qui j'ai produit beaucoup de concerts à une époque, de pub rock, que ce soit Eddie and the Rocktrod, Dr. Feelgood, Wilco Johnson, on en a fait des dizaines ensemble. Un peu mentor dans le rock.
Est-ce qu'il y a des lives qui tombent tout le long de ces années? J'imagine, enfin, c'est des centaines et des centaines de lives, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui t'ont marqué plus que d'autres?
Ouais, il y en a musicalement, dans les cinq préférés, je dirais qu'il y a eu le concert de Revera Ortonit ici. Dans mes préférés, il y a le concert des Undertones, la reformation des Sonics, où c'était encore les Sonics quand même avec 5 originaux, donc c'est pas mal parce que maintenant ils sont tellement vieux qu'il y a eu du mercato dans le groupe, et forcément Marky Ramone. pour moi, ça a été ça. Après, dans les concerts d'anthologie, je crois que ça a été la première fois où on a fait des groupes. Ça, c'est mes goûts musicaux. Après, les grosses claques, hein, ça a été des groupes. Première fois, on a fait Exploited, mais ici, pas Roxor. Ça a été un carnage. Voilà, carnage. Et pareil, nous. Et la première fois, on a fait Agnostic Front ici. Et pareil, la première. Après un concert qu'on a fait avec les Météores au Rockstore, avec les Palavas et les Vierges, on est venu boire un coup et Fennec nous a dit, mais moi je préfère venir jouer ici plus régulièrement que venir tous les. Et le problème, c'est quand tu t'accueilles des groupes comme ça qui ont l'habitude de jouer dans des grandes salles où tu sais que tu vas ouvrir, ça va être un chaos phénoménal. Au début, t'es pas prêt, quoi. Mais après, t'as l'habitude. Mais au début, les premières fois, ça fait bizarre.
Et du coup, t'es obligé de faire 2-3 soirs de suite ou...
Non.
Non.
Oui, ici, sur les Météores, on l'a fait. On a monté un festival un peu comme ils faisaient à l'anglaise dans les années 70-80 pour les fans. Sur 3 jours, et du coup ça fait un équivalent de 900 tickets en fait vendus en 3 jours ici, mais sur les 900 t'avais 300 personnes qui sont restées les 3 jours. Il devait y avoir allez, 50 français et 15 montpelliérains, quoi. Donc voilà, c'est assez marrant. Pareil, tu parlais de la connexion de la salle sur les trucs un peu pointus comme ça, il y a ça vient de partout pour voir ces groupes-là, en fait. Donc, quand on faisait le festival Stomping, ça venait beaucoup d'Espagne, d'Espagne, Suisse, Belgique. Hein. Donc, on dit, sur les festivals à thème qu'on a organisés, pareil, sur le rockabilly, comme on a fait pas mal de soirées avec des vieux Teddy Boy, comme on va jamais chercher la simplicité, tu vois, on va vers des publics simples. La moitié de la salle sur les concerts de rockab, c'était des Anglais, des vieux Ted. Et... Donc ça a été des sacrées rencontres, hein, avec des vieux personnages. Donc ouais, en fait, ouais, quand tu disais l'ouverture, c'est, je crois quand même, malgré tout, on est toujours resté, même si, bon, maintenant on dit métal extrême. C'est tout ce qui était dans l'extrême. On a fait du rockabilly, putain, on s'est dit on va essayer les Teddy Boy, tu vois. On est toujours allé pour voir.
Vous allez chercher des niches,
en fait. Les niches ou extrêmes, un peu. Tu vois, peut-être le côté tout à fond cramé, quoi, tu vois. Tiens, on nous a dit que les relous, ils étaient là, on va aller voir ce que c'est, tu vois. Donc tu fais Crazy Cavan et là, t'as tous les Teddy Boy qui déboulent. Mais c'est des sacrés souvenirs, tu vois, d'avoir fait Crazy Cavan ici. Avec le temps, tu te dis, ouais, c'est marrant. C'est marrant, et on a découvert des trucs qu'on a fait nous à Saint-Jean-de-Védas, tu vois. T'es pas à Paris, tu vois, au centre du monde. T'es au fin fond d'une zone industrielle bien pauvre. Razor and I slid his throat. I did it for a boogie, a pretty, pretty boy. I did it for a boogie, a pretty, pretty boy. Ooh, ooh, ooh. I did it for a boogie, boogie, pretty, pretty boy. Well, I'm a tater for cause it's a life I choose. I wear a triple jacket and a blue sweat shoes. I smoke a big cigar and a dig a dope heart. Saturday night to see my favorite dance to the bop. Ooh, tater boy, I think it's a pretty, pretty boy. Tater boy, I think it's a pretty, pretty boy. Ooh, ooh, ooh. Tater boy, I think it's a pretty, pretty. Get out! Getting my cheeks in a hammer.
worries I ain't, I changed his mind. A teddy for a pretty, 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 pretty bird. A teddy for a pretty, 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 pretty bird.
Ce qu'il y a de frappant, enfin, quand on rentre désormais dans la Secret Play, c'est qu'il y a des bacs de vinyle. Il me semble que c'est pas, c'est assez récent. Enfin, c'est pas.
Ouais, ça fait des années que je veux le faire, mais souvent par manque de temps, je l'ai pas fait. Et puis un truc qui s'appelait le Covid. Et là, je me suis dit, oh putain, banco. Et du coup, j'essaye. Alors, je veux pas devenir un concurrent à un disquaire. J'essaye tout le temps d'avoir entre 5 et 600, voire 700 références. Il y en a qui sont récurrentes, hein, et après, voilà. Ouais, on essaye tout le temps d'avoir forcément les groupes qui jouent ici, les groupes emblématiques qui ont joué ici, voilà. Donc, il y a du hardcore, il y a du... Il y a du punk français, il y a du Krams, du Ramones, du Misfits, Agnostic Front forcément.
Et donc on peut acheter les disques durant le concert ?
Ouais, durant le concert. Comme tout ce qu'on fait, ça doit être notre côté do it yourself, comme tu dis. On essaye d'être dans des... C'est que du neuf, hein. Il n'y a pas d'occasion. Tous les 33 tours sont à 20 euros. En fait, moi, je réagis en gars qui a acheté des vinyles à une époque et je me dis, bon, à 20 euros, j'en prends deux, à 30, j'en prends pas, quoi.
Oui, c'est un prix très, très raisonnable à notre époque.
Ben, c'est surtout que là, depuis le Covid, on parlait tout à l'heure du label, presser un disque, maintenant, ça commence à devenir très cher, en fait. Si t'en fais 200-300, que tu le fais en couleur et tout, ton disque te revient à 12 balles. Donc forcément, plus les frais de port et tout, ça te revient une fortune. Si tu comptes l'enregistrement, donc c'est sûr que le moindre groupe, maintenant, te va un disque 25 euros, disons, voilà.
Pour en revenir au... Tu parlais du Covid. Je sais que vous avez été en grande difficulté à cette période.
On l'est toujours.
Toujours ? Parce que j'avais eu... Je t'avais entendu parler en interview...
De fermeture.
De fermeture et aussi de sanctuarisation du lieu, est-ce que ça en est, ça?
Alors, il y a un grand enculé, on peut le dire, dans la politique, qui a dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. Dixit, monsieur Charles Pasqua. Mais s'il l'avait écouté, j'en serais peut-être pas là. En fait, on a fait une, allez, je vais me faire des potes, on s'en bat les couilles. En fait, si tu veux, on a fait une conférence de presse il y a 2 ans, où, en gros, on allait annoncer la fermeture de la salle 6 mois plus tard. Voilà. Donc, j'avais dit plus ou moins à la presse la teneur de la chose. Donc, bizarrement, là, il y avait 50 journalistes. Hein. Voilà, c'était au taquet de monde. Et bizarrement, tous nos élus étaient là. Tous. Si tu veux, je te donnerai les noms. Après. Donc, voilà, on a dit, bon, mais voilà, hein. On s'en sort pas. En sachant que quand on a parlé de sanctuarisation du lieu, c'était une proposition de notre maire président de la métropole ici pendant la... C'est pas sorti de mon cerveau tout seul. Hein. Pendant le Covid, quand on a monté les concerts test, on a la vidéo, c'est enregistré. Et donc nous, un an et demi après, on a fait ça. Et là, on a eu la région qui s'est manifestée pendant la conférence de presse, et qui m'a dit oui, c'est vrai, ils devaient nous donner 10 000 euros par an de subventions qu'on n'a jamais eues, qui se sont commués il y a 2 ans en 4 000. Voilà. Et l'aide de la ville de Montpellier, qui a mis 2 ans à arriver et qui est toujours pas arrivé. Donc elle est votée, l'argent est bloqué, mais du coup, forcément, notre propriétaire, tu vois. Et donc, voilà, c'est très, très compliqué. Notre avenir, il n'est pas gagné encore. Comme maintenant, je vois de 6 mois en 6 mois. Voilà. De toute manière, c'est une volonté politique. Hein. À l'heure actuelle, toutes les salles à Montpellier, déjà, toutes les salles indépendantes en France sont en train de fermer. Le Mondo Bizarro à Rennes a fermé, le Mars Attack à Angoulême, ça n'existe plus. Bon, voilà. Je pense que tout ce qui est de notre format n'existera plus d'ici 5 ans. Il restera que les SMAC. Sauf qu'en sachant que les SMAC, les sénateurs ont commencé à mettre leur nez dedans il y a quelques mois en disant que ça coûtait cher pour pas grand-chose. Et ça, c'est pas bon quand ils commencent à dire ça. Le Rockstore, ils s'en sortent parce que, mine de rien, ils sont en centre-ville et c'est une boîte de nuit, hein, qu'on en dise. Par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, ils produisent moins de concerts. C'est des prods extérieurs qui viennent, qui louent et qui produisent. C'est pas une critique, hein, loin de là, ils ont raison de faire ça. Produire un concert, ça coûte cher. Tu payes un staff, tu payes la SACEM, tu payes le CNM, tu payes les artistes, tu payes l'hôtel. Il faut, je crois que juste les gens ont oublié, nos élus ont oublié, c'est un rapport de la Cour des comptes, hein, pas de moi, que 1 € de subvention donnée à une salle de spectacle, c'est 8 € remis dans la société. Moi, par exemple, je suis un très bon client de l'hôtel en bas et du Prime Hotel à la zone. Je fais mes courses à Carrefour Saint-Jean-de-Védas. Tu vois, je fais mes courses à Métro Saint-Jean-de-Védas.
Tu fais vivre.
Hein. Je fais vivre les quoi, tu vois.
Personne.
Je fais vivre beaucoup de personnes, directement et indirectement. Disons vivre, non, mais Carrouf ne m'attend pas. Mais en tout cas, sur la commune, oui. Quoi. Donc, voilà. Et, donc, oui, notre avenir n'est pas gagné. Et je pense qu'en plus, culturellement, les salles, le Rockstore vit. Parce que ça appartient à la mairie de Montpellier, que le bâtiment est entretenu et qu'ils ont un loyer modéré. Le jam existe parce qu'ils ont la même chose. On a la chance que la métropole fasse des choses comme ça. Victoire, c'est la même. Mais nous, non. Et on a quand même un loyer de 4 700 € par mois.
Alors que dans la logique, ça devrait être la même pour vous.
Disons, on aurait aimé. Et c'est eux qui nous l'ont proposé. Mais voilà, après, comme plein de choses qu'on n'avait pas intuitées, comme on est assujetti au même problème que dans la vraie vie, en fait. Avant, on avait 800-900 € d'EDF tous les 2 mois. Là, j'en ai 1 600 tous les mois, en fait. Le problème, c'est qu'il y a le temps réel et le temps administratif et politique, en fait. C'est pas les promesses, le problème. C'est le temps... le loyer, il tombe tous les 30 du mois, on peut pas attendre 2 ans, parce que il y a les vacances, parce que machin, en fait, il y a la vraie vie derrière. Et que, mine de rien, nous, on a des salariés aussi. Et qui dit du temps décalé, il faut pas qu'on augmente la dette. Moi, j'ai pas envie d'arrêter et d'avoir 10 ans de dette derrière, à payer derrière.
Merci Fifi pour ce témoignage. En tout cas, Montpellier n'a pas été ville capitale culture européenne, mais ce qui est sûr, c'est que la Secret Place, c'est une salle européenne du rock. Ça, c'est une certitude.
En fait, je pense que on en parlait tout à l'heure. T'as croisé des gens, même quand tu parlais de Montpellier capitale de la culture, on accueille des festivals de rap. En fait, c'est pour la diversité culturelle quand même qui manque de choses. Nous, notre avenir, à un moment, j'en ai parlé avec la métropole. J'ai dit, mais vous savez, j'achète une licence 4, je viens une boîte de nuit rock, j'ouvre 3 jours par semaine, je vivrai mieux, en fait. Le brasseur était d'accord, il y avait un investisseur pour faire ça. Malheureusement, pour vivre, c'est ce que fait l'Antirouille. Plus boîte de nuit que concert. Mais ils le font pas par vocation ou envie, ils le font par nécessité et pour survivre. Donc nous la question ça a été de le faire. Moi j'ai dit si c'est ça j'arrête. J'ai pas envie de. C'est pas que j'aime pas les boîtes de nuit mais. Donc et par diversité culturelle si on est ce soir il y a une résidence d'une Batucada. Là il y a un festival de rap qui vient s'installer qui fait ses clips. En fait je pense qu'il y a un problème. C'est pas du co-rock. Je pense que ce qui amène le plus de gens dans les concerts et qui vendent des tickets, c'est le rock et le métal en ce moment. La musique qui est la plus téléchargée et la plus écoutée sur Internet, c'est le rap et le R&B. Bon, mais tu regardes pour ces musiques-là, pour une métropole comme Montpellier, en diversité culturelle, qu'est-ce qu'il y a ? Si nous, on est mal dans le rock, Alors qu'il y a quand même Victoire qui fait des trucs, qu'il y a des assos qui font des trucs, qu'il y a le Rockstorm, qu'il y a le KGB. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont les autres scènes, en fait? Le rock, par rapport à... Dans la tête des autres gens, on est structuré, on a de la diversité et des lieux. Donc t'imagines où on en est réellement, quoi. Donc c'est ça, c'est un peu plus ça, quoi. C'est juste la diversité culturelle, il faut se poser la question.
Le disque de la fin, peut-être?
Le disque de la fin? Ben, hommage à Ty Luke, on va dire. Enregistré ici, le live à la Secret Place. Voilà, il est parti cette année. En rencontre avec quelqu'un. Humaine. Fan d'abord quand on était gamin, et puis rencontre humaine.
Merci Fifi.
Merci à toi.
C'était J'irai diguer à la Secret Place.
Ok, vous êtes prêts? Vous savez ce que je vais vous dire? Ok, quand vous, tu sais ce que je vais leur dire? Le boss de la dernière chance, ok pour vous.
Et le reste du monde, il s'en balance. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Le bord de la dernière chose. Hey! La musique de l'œil, le rythme du pomme, ça fait avancer les singes. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Le pomme de la dernière. Dans les dents, la jungle, dans les dents, la jungle, là où le soleil s'est...